Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans l'introduction de la nouvelle traduction de la Bible, dont il avait dirigé l'édition aux éditions Bayard, parue en 2001, Frédéric Boyer écrivait « L'histoire de la Bible est indissociable de l'histoire de ses traductions. Ce que nous appelons la Bible est le fruit de plusieurs traductions, de multiples transferts d'une langue à une autre. » Et de rappeler quelques étapes fondamentales de cette longue histoire, à commencer par la traduction en grec des textes saints hébraïques, à partir du IIIe siècle avant notre ère, par la communauté juive qui vivait à Alexandrie, puis la traduction latine par saint Jérôme au IVe siècle, devenue par la suite la version autorisée du monde catholique. Il soulignait également que, contrairement à ce qui se produisit par exemple en Allemagne ou en Angleterre, la langue française ne lia pas son destin à celui des traductions bibliques. La littérature française entretenait ainsi, selon lui, une relation plus complexe et paradoxalement plus riche que les autres littératures européennes avec le texte biblique. Si elle n'a pas connu le bonheur de produire une vulgate française, concluait-il, la littérature française connaît peut-être celui de pouvoir redécouvrir aujourd'hui les textes de la Bible. C'est à pas moins de 48 traducteurs que ce projet colossal fit appel, qui travaillèrent pendant plus de 6 ans sous forme de binôme. Un spécialiste des langues et textes bibliques avait été associé, pour chacun des livres de la Bible, un écrivain contemporain. Parmi ceux qui participèrent au projet, on peut citer Jean Echenoz, Emmanuel Carrère, Marie Ndiaye, Jacques Roubaud, François Bon ou encore Valère Novarina. La parution fit à la fois événement et polémique. C'est dans ce contexte que, le 27 septembre 2001, Frédéric Boyer, Marc Sévin, le père bibliste avec lequel il coordonna le projet, et Olivier Cadiot, l'un des écrivains y ayant participé, étaient les invités de Pascal Casanova dans les Jeudis littéraires et défendaient leur travail commun.
Les Jeudis littéraires, aujourd'hui, la nouvelle traduction de la Bible publiée aux éditions Bayard. Et autour de la table aujourd'hui, Frédéric Boyer, qui est en quelque sorte le maître d'œuvre de cette traduction, celui qui en a eu l'idée et qui l'a dirigée. Il est responsable des éditions Bayard, il est aussi romancier et poète, et il a participé directement à cette entreprise, puisqu'il signe notamment la traduction de la Genèse. On est aussi avec Marc Sévin, qui est exégète, et qui a dirigé ou supervisé ce projet du côté scientifique, disons, du côté des spécialistes de la Bible et des langues anciennes. Il a traduit les psaumes avec Olivier Cadiot. Je crois qu'il faut signaler qu'il y a un troisième personnage qui a dirigé cette entreprise.
Oui, qui est Jean-Pierre Prévost, et qui est de l'autre côté de l'océan et du Québec, parce que nous avons travaillé avec des amis québécois.
Voilà, et on est enfin avec Olivier Cadiot, écrivain. Il signe dans cette Bible en tandem à chaque fois avec un exégète la traduction de Osée, des psaumes et du Cantique des Cantiques. D'habitude, je fais une petite introduction pour expliquer de quoi on va parler, surtout pourquoi j'ai choisi tel ou tel texte. Mais aujourd'hui, ça n'est pas du tout la peine, puisque tout le monde a entendu parler depuis quelques semaines de ce qu'on appelle désormais la Bible des poètes. Et en soi, d'ailleurs, c'est un succès extraordinaire, au moins un succès de rumeur. Mais bon, on va essayer d'entrer aujourd'hui dans le détail un petit peu de cette entreprise et de sa spécificité. Alors, c'est un projet très, disons, très étonnant, dont il faudrait peut-être que vous nous rappeliez la genèse, Frédéric Boyer, dans un dossier qui accompagne le volume. Vous racontez ça comme une belle histoire à suspense. Vous dites, par un beau matin d'hiver 1994, je reçus sur un mauvais fax les premiers essais de traduction des psaumes par Olivier Cadio, et ce fut éblouissant. Voilà. Ben voilà, en gros, ouais. je caricature un peu, mais...
Non, c'est exactement ça. Non, mais alors, il faut bien avoir en tête que c'est une histoire collective qui a concerné environ 50 personnes d'horizons extrêmement différents, puisqu'effectivement il y a donc des poètes, des romanciers, des essayistes et des spécialistes des textes bibliques et des langues anciennes. Eux-mêmes, il ne s'agit pas de corps homogène, ni les écrivains, ni les spécialistes de la Bible ne forment un camp homogène. Il y a des épigraphistes, des archéologues, des spécialistes des textes, des spécialistes de l'histoire littéraire, des traductions, spécialistes du grec, de l'hébreu, de l'araméen, bon. Et parmi les écrivains aussi, il y a des gens très différents. Donc 50 personnes d'horizons très différents, croyants, pas croyants, chrétiens, pas chrétiens. Bon. Et cette aventure a duré plus de presque 7 ans maintenant. Voilà, donc forcément, 50 personnes pendant 7 ans, autour d'un projet fou, qui était effectivement de se lancer dans une nouvelle traduction des textes bibliques, en mettant en scène de façon radicale la part littéraire de l'acte de traduction. Évidemment, c'était quelque chose d'assez bouleversant pour tout le monde, et bouleversant dans tous les sens du terme. Et effectivement, l'aventure a commencé véritablement le jour où Olivier Cadio et Marc Sevin nous ont remis leur premier essai de traduction, voilà, sur quelques psaumes. Et moi, en lisant les premiers, je crois que c'était le psaume 1 et quelques autres.
Les deux,
voilà. C'était une originalité folle. J'ai dit, c'est bon, voilà. C'est possible, voilà.
Pour dire l'originalité de votre projet, c'est le choix des écrivains, justement. Vous dites, je sais pas, vous employez l'adjectif audacieux, c'est des gens qui auraient ça en commun.
Oui, enfin, c'est pas à moi de dire s'ils sont audacieux ou pas, mais c'est parce que...
Si, ce serait bien que vous tentiez d'expliquer votre choix.
Moi, je dis quelque chose de simple, c'est que c'est des auteurs qui, pour moi, ont un rapport original à la langue française et au travail d'écriture, voilà. C'est-à-dire, on a quand même, dans un formidable... ensemble de louanges, on a eu quelques violentes petites attaques sur le choix des écrivains, et je trouve ça assez surprenant. On a dit c'est des gens à la mode, ou je sais pas. Bon. Ce sont presque tous, enfin pour la plupart, des gens qui ont au contraire un travail personnel un peu secret, assidu, original. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des gens qui se payaient le travail du rapport à la langue, à l'écriture, de façon avec beaucoup de modestie et en même temps beaucoup de personnalité. Eux seuls pouvaient effectivement engager un véritable travail sur ce que c'est que déplier une traduction avec des spécialistes des textes et des langues anciennes.
On peut citer la première équipe, hein, c'était Pierre Alféri, Olivier Cadio, Jacques Roubaud, Emmanuel Carrère, Jean Echenoz, Valère Novarina. Ce sont des gens, voilà, très différents.
Oui, c'est ça, à la fois des gens très différents. Il faut aussi dire la vérité, c'est des gens qui... Le noyau vient d'un univers éditorial qui est quand même amical. Voilà. Là aussi, ça a été parfois reproché quand on se lance dans une aventure comme ça.
Non, mais moi, je vous attaque pas.
Très difficile. Non, non. Dans une aventure comme ça, très difficile, il faut, je crois, constituer une équipe qui forme une petite communauté, voilà, de travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'ailleurs des heurts, des dissensions et des difficultés, bien sûr.
On a l'impression que vous avez, que vous avez distribué les textes, ou en tout cas qu'ils se sont distribués, je ne sais pas comment ça s'est passé, selon les habitudes littéraires ou selon les intérêts esthétiques des gens. Par exemple, vous avez, enfin, les romanciers ont eu des textes narratifs, en gros.
Oui.
Et bon, il y avait hier soir une soirée de lecture à Beaubourg et on apercevait ça assez bien. Et puis les poètes ont été chargés de textes, alors je ne sais pas s'il faut dire poétiques, en tout cas assez obscurs pour avoir l'air d'être de la poésie. Et donc le travail était relativement bien distribué, disons, selon l'œuvre des gens.
Oui, enfin le travail, ça s'est fait en deux façons. D'abord, certains auteurs contactés, m'ont tout de suite dit, moi je veux essayer telle et telle traduction. Florence Delay voulait absolument travailler sur l'Évangile de Jean. Jacques Roubaud voulait absolument travailler sur l'Ecclésiaste.
Je crois qu'Olivier était vraiment très intéressé par les psaumes.
Il fait l'amour.
Non, on m'a demandé. Oui. Ce qu'on a commencé.
On a commencé. Et puis l'autre façon, c'est effectivement, c'est moi qui me suis dit, alors peut-être que c'est le cas pour Olivier, je ne me rappelle plus, que je me suis dit vraiment, ça m'intéresserait beaucoup de voir Olivier Cadiot travailler sur les psaumes. Pour Jean Echenot, je me suis dit, ça m'intéresserait beaucoup que quelqu'un comme lui exerce son travail d'écrivain sur la traduction de livres bibliques comme les livres de Samuel, qui sont un enchaînement de petites histoires. Enfin,
en l'entendant lire Daniel dans La Fosse aux Lions, on voyait très bien que ce qui l'amusait, c'était de raconter une histoire et de la lire comme telle.
Tout à fait. Donc c'est passé comme ça. Après, la distinction prose-poésie, je pense qu'elle a pas vraiment fonctionné.
Non, narration.
Plus... Narration, univers, on va dire, effectivement, de petites proses d'histoire. Et puis un univers plus qui est de l'ordre du chant, de la louange, de la supplication, de la prière, qui est...
Alors, le problème, c'est... Enfin, le problème... Oui, enfin, moi, j'ai lu qu'on vous l'a reproché, donc ce serait intéressant de vous entendre là-dessus. C'est celui du tandem, quoi. C'est celui du couple. Donc, ces traductions sont faites à deux. Donc, l'un est exégète, spécialiste de la Bible, et l'autre arrive avec son savoir-faire ou son supposé savoir-faire poétique, littéraire, narratif, etc.
Voilà, c'est une traduction collective. Alors, c'est pas tellement surprenant
Oui, mais
dans
là,
les
on parle pas du collectif,
Il faut aussi dire que la plupart des traductions bibliques, en tout cas récentes, enfin celles du XXe siècle, les grandes traductions sont des traductions collectives. Alors il y a celle de Chouraki qui fait un peu exception, et celle qui est en route d'Henri Méchonic, par exemple, effectivement. Mais les grandes traductions, celle de la Bible de Jérusalem, de la traduction œcuménique, sont des traductions collectives. Alors effectivement, il n'y a pas ce côté alliance de deux compétences,
ça,
entre guillemets,
fait.
Effectivement. Non, ça s'est jamais fait de façon aussi systématique, mais c'est vrai que, par exemple, pour la Bible de la liturgie, je crois, dans les années 50, on a fait appel à, je crois que c'est Patrice de la Tour du Pin qui a relu les choses. Donc,
quand le travail est fait, enfin, c'est
voilà,
après.
Quand le travail est fait.
C'est pas un travail dès le début. Donc là, c'est un travail
collectif. Oui, une sorte d'épreuve au feu du poète. Bon, mais là, l'idée était, c'est assez compliqué à expliquer. Je veux dire, d'abord, on peut dire ça comme ça. C'est d'une part, aujourd'hui, on est donc fin du XXe siècle quand on a commencé à travailler sur cette traduction. On était dans une toute autre situation culturelle et éditoriale par rapport à la Bible qu'il y a même ne serait-ce que 50 ans. D'abord parce que les grandes traductions, je dirais scientifiques, philologiques, ont eu lieu. Le travail a évolué. Et par contre, la traduction biblique au XXe siècle, en tout cas, c'est vraiment écarté de la question littéraire, de la question de la langue, de la question de la littérature, pour des tas de raisons, sécularisation culturelle et de la société, mais aussi parce que la littérature, elle, a beaucoup évolué et peut-être que moi, je ne connaissais pas, je pense, de personnes susceptibles aujourd'hui de prendre en charge à la fois l'immense travail d'exégèse, d'élucidation des textes et des langues, et en même temps le tout aussi immense travail de réflexion sur aujourd'hui comment on peut raconter les choses, comment on peut les chanter, comment on peut les exprimer. Voilà, donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de rapprocher ces deux mondes.
Voilà. Ouais, alors donc implicitement vous vous défendez au fond de travers qui serait qu'on pourrait appeler une littérarisation de la Bible, qui serait très exactement une laïcisation justement. Alors ça, ce serait le premier travers, et puis une littéralisation. Qui au contraire serait le second que vous évoquez dans votre introduction. Et donc, par exemple, Marc Sevin, quand on est exégète, qu'est-ce que c'est cette littérarisation, cette injection à forte dose de littérature dans la Bible? Il sait pas. Allez-y.
Non, mais parce que ce qu'on peut dire, parce que c'est le sur cette histoire de traduction à deux. D'abord, c'est à deux et en même temps à plus, puisqu'il y avait aussi toute une équipe. On n'était pas, et les écrivains entre eux, je sais, ont beaucoup discuté, beaucoup échangé. Les exégètes aussi, d'ailleurs. Donc, il y a quand même l'idée d'un collectif est réelle. Mais en France, l'expérience de traduction à plusieurs de textes poétiques, de textes de littérature est réelle. On pense au séminaire de Royaumont, par exemple, pour les gens qui connaissent. Bon. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains dans cette traduction avaient déjà participé à ça, bon, ce qui est
avec chose. Emmanuel Occart.
Voilà, voilà, autour d'Emmanuel Occart. Ensuite, l'idée, pour moi en tout cas, l'idée était que cette alliance à la fois de savoir et d'ignorance, entre guillemets, devait forcément déboucher, quand elle était vraiment tenue, sur une dynamique neuve dans l'écriture de la traduction. Je crois que quand vous devez confier ce que vous faites à quelqu'un d'autre, quand vous le faites pour l'autre, pour autrui, vous en êtes d'autant plus responsable, vous êtes d'autant plus attentif à ce que vous transmettez à l'autre, puisque l'autre le reçoit et ensuite va vous le rendre aussi. Donc moi ça m'a passionné pendant ces 6 ans de voir comment les binômes, de façon différente chacun, gérer cette question de la responsabilité du travail, voilà. Mmh. On dédiait quelque chose à l'autre. Jacques Roubaud dit quelque chose de très beau et en même temps amusant. Il dit finalement, au bout du compte, quand on fonctionnait très très bien, on n'était qu'une grosse tête qui travaillait plus vite que la tête seule. Parce que Jacques, avec ses références littéraires, sa propre lecture de ce que lui confiait l'exégète avec tout son savoir, finalement, tous les deux arrivaient à quelque chose, si on prend son image, à travailler finalement de façon presque d'aller plus loin, d'être plus efficace que voilà lorsqu'on est seul. C'est un peu la vraie question, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on gagne à travailler seul et qu'est-ce qu'on perd aussi et qu'est-ce qu'on gagne à travailler avec quelqu'un et qu'est-ce qu'on perd.
Je repose ma question sur la littérature au fond. Par exemple, ce qui est frappant, vous employez tout le temps le mot de littérature pour parler de la Bible. Vous dites c'est un monument de la littérature de l'Antiquité au même titre que les œuvres de Homère. Vous dites ce sont des genres littéraires extrêmement différents. Vous employez sans cesse le mot de littérature. Est-ce que cette littérarisation, donc cette intrusion de la littérature dans un texte, ne le désacralise pas justement? C'est une tentative. Voilà.
C'est une grosse question.
Oui, elle est grosse, oui.
Non, c'est une grosse question, mais d'abord...
Par exemple, hier, de venir écouter des poètes lire la Bible, c'est un drôle de truc.
Oui, en même temps, c'est aussi quelque chose culturellement, c'est pas... Alors ça, c'est pas complètement inédit. Marot a fait des psaumes, a écrit des psaumes, et on les lit encore, on les étudie encore. Claudel, pareil. Donc c'est pas quelque chose de complètement...
C'est peut-être inédit en France, parce que bon, pendant un siècle et demi, il y a...
Marc Souffrin.
Pendant un siècle et demi, peut-être, il y a eu, au niveau de la Bible... c'est aussi peut-être le fait qu'on soit dans un pays catholique et il n'y a pas eu une nécessité d'une traduction, puisqu'on écoutait la Bible en latin. Bon, ce n'est que... on a repris goût à la Bible, j'allais dire, qu'au milieu du siècle dernier. Mmh. Et bon, mais dans les autres pays, ça s'est fait.
Oui, parce que ce qui est frappant, c'est que dans vos commentaires, vous voulez vous adresser à un public nouveau, des gens qui, par exemple, n'auraient pas lu la Bible et qui, au fond, seraient intéressés par le fait de le lire parce qu'elle serait devenue littéraire, ce qui est très, très paradoxal.
Oui, là, c'est... Non, mais d'abord, il y a de moins en moins de gens qui lisent la Bible, et même peut-être... Bon, enfin, c'est donc... on ne s'adresse pas forcément à un public nouveau. Je vais vraiment répondre à la question. On manifeste la Bible... comme un formidable objet littéraire et ce qu'elle est en profondeur, c'est pas la désacraliser, c'est pas la discréditer. Il y a des
littératures.
Bah oui, mais il y a ce qu'on appelle des littératures bibliques. Qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est une sorte de fabrique littéraire géniale. C'est un volume, c'est quelque chose de complètement inédit dans l'histoire des civilisations même, parce que c'est un vrai travail littéraire qui est à l'origine de ce qu'est la Bible. Voilà, un vrai travail littéraire qui est une sorte de collection, de réécriture, de documentation et de surtout à la fin les spécialistes sont à peu près d'accord aujourd'hui là-dessus qu'il y a eu au-delà de toutes les strates de documents, d'écriture, de transmission de ces textes bibliques, il y a eu à un moment donné un acte littéraire, social et culturel, effectivement de d'inscription de ces textes dans un ensemble, de réécriture. Et effectivement la Bible traverse toute l'histoire littéraire de l'Antiquité, même elle joue sur l'histoire littéraire de l'Antiquité. Tout le début de la Genèse est une espèce de réponse formidable à la plupart des récits mythologiques du Proche-Orient ancien. Les psaumes aussi, c'est quelque chose de c'est une invention nouvelle de façon de chanter et de prier. Et la Bible est une collection littéraire, dire ça n'est pas la désacraliser. Le problème, le rapport à la sacralité du texte, je crois là il faut être, c'est un autre problème. C'est-à-dire c'est que il n'y a pas de texte sacré, il n'y a pas de langue sacrée, il n'y a pas de littérature sacrée. Les langues, les textes et la littérature deviennent sacrés en fonction de l'usage qu'une communauté religieuse, croyante, culturelle en fait.
Parce que la commission doctrinale des évêques de France, elle est drôlement au courant de l'ambiguïté de l'entreprise. Alors c'est un monument de, pourrait dire, disons, pour pas dire hypocrisie, disons, casuistique ecclésiastique. Hein. Donc la commission doctrinale des évêques de France écrit donc avant la page de garde, si elle estime que cette traduction de la Bible ne peut faire l'objet d'une utilisation liturgique, la commission doctrinale des évêques de France reconnaît que l'appareil critique comporte introduction, notes et glossaires permet d'inscrire cette traduction dans la tradition vivante de la foi catholique. Attentive au travail engagé par les éditeurs et désireuse de le soutenir, elle a néanmoins décidé de prendre le temps nécessaire pour vérifier la réception de cette nouvelle version par les catholiques et pour apprécier sa fidélité profonde à la révélation divine. Sachant que les écritures saintes ont toujours été l'objet d'expressions culturelles, etc., elle en reconnaît la portée littéraire et elle en encourage la lecture. Autrement dit, elle va attendre de savoir si les catholiques sont contents pour dire si elle sera oui ou non contente elle aussi.
Voilà. Oh, c'est oui. Pas tout à fait ça quand même.
Oui.
Je pense que cette histoire, de toute façon, on est en attente d'imprimature.
Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que l'imprimature ? Parce que maintenant, on a laïcisé précisément cette expression.
Oui, c'est pour ça que bientôt ça va disparaître. Et moi, j'espérais que ça donne l'occasion aux évêques d'être débarrassés de ce poids. Bon. Mais on comprend aussi que de par leur travail, leur responsabilité, bon,
leur charge,
ils soient attentifs. Et puis, on a eu de très bons rapports avec eux, on a été les voir, etc. Mais seulement, il y a une procédure qui est assez lourde en ce moment, parce qu'il y a eu des histoires avec une Bible
qui était parue chez Fayard.
C'est ça. Donc, maintenant, il faut un an. Donc, comme nous, on a donné les derniers manuscrits au mois de mai, on l'aura en mai 2002. C'est, pour moi, ça fait aucun doute.
D'accord.
On comprend. Mais vous rendez compte de ce qu'ils disent, c'est inscrit dans la tradition.
Il faut être fort pour comprendre ce qu'ils disent.
Puis, ils en recommandent la lecture. Que voulez-vous de plus ? C'est plus qu'une imprimature, à la limite.
Non, parce que je me disais, on pourrait dire que vous êtes attaqué sur votre droite et sur votre gauche. C'est-à-dire vous êtes attaqué, disons, normalement, oui, pour aller très vite et pour caricaturer du côté des lecteurs du Figaro, oui. qui disent que, disons, c'est une modernité ou une modernisation du texte qui leur déplaît. Puis vous êtes attaqué sur votre gauche, je dirais, par Michel Nicono aussi, de la fidélité.
L'abus de Jérusalem a été attaqué, la Tobe a été attaquée.
Ils ont tous été attaqués.
À chaque fois, c'est normal un peu. Il y a derrière cette question de sacralisation, je pense aussi que peut-être qu'on sacralise trop ce texte et que ce texte n'a rien de sacré. C'est un texte qui s'offre à tout le monde. Et moi, je fais le pari que...
Vous le diriez à la commission des évêques de France ?
Bien sûr, elle le sait très bien. Bon, je suis même au service de cette commission, donc ils savent très bien ce que je pense. D'accord. Et pour moi, le fait de faire un travail sérieux, objectif, c'est ça le sacré pour
D'accord.
moi. Et à la limite, c'est la première fois qu'on fait une traduction vraiment sacrée, parce qu'elle s'offre à tout le monde. Et c'est pas une traduction qui est confessionnelle, qui est faite que par des catholiques ou par un groupe. Là-dessus, je crois qu'il faut être net. Faut pas. Pour moi, c'est très clair. Hein.
Est-ce qu'on peut, Frédéric Boyer, rappeler un tout petit peu, alors ce serait trop long l'histoire des traductions de la Bible, mais au moins par les poètes, rappeler un peu ça, les précédents, comment ça s'est passé ?
Oui, alors, c'est quand même un petit peu compliqué, mais c'est-à-dire que dans l'histoire occidentale, la Bible a eu un rapport avec la littérature, toujours. D'abord, elle a toujours été traduite, ce qu'on oublie aussi souvent de rappeler. C'est-à-dire que la Bible n'existe que parce qu'elle a été traduite. Depuis les Juifs, 300 ans avant Jésus-Christ, les Juifs d'Alexandrie, qui ont commencé à traduire leurs écritures saintes en grec, c'est un acte littéraire formidable qu'ils font, parce qu'ils font passer... Ils font passer toute leur mémoire spirituelle et linguistique dans un tout autre univers qui est l'univers hellénistique. Et on passe, par exemple, on va faire basculer la Torah dans le nomos. Voilà. C'est intellectuellement, anthropologiquement, culturellement, c'est un saut formidable qui va modeler pas mal de choses dans l'histoire même de l'Occident. Même chose pour Saint Jérôme. Saint Jérôme traduit la Bible IVe siècle de notre ère, dans la langue latine qui va devenir la grande langue de l'Occident médiéval.
On peut rappeler que Valéry Larbaud avait fait de Jérôme le saint patron,
le saint patron des traducteurs.
Ce qui n'est pas rien.
Voilà. Alors ensuite, il se trouve que
Pardon, je vous ai fait perdre votre fille.
Non, pas du tout. Il se trouve que l'histoire de la traduction, comme ça, traverse toute l'histoire des grandes langues européennes, et l'histoire de la traduction de la Bible correspond à peu près, effectivement, au formidable travail de linguistique entre le XVe et le XVIIe siècle en Europe, où les langues modernes se sont inventées, modelées, formées. Donc, par exemple, alors c'est des choses un peu banales, mais qu'il faut quand même rappeler, la King James, au début du XVIIe siècle, la grande traduction du roi Jacques en langue anglaise, donc, c'est en quelque sorte le creuset linguistique, culturel de la naissance de l'anglais moderne. Pareil pour la Bible de Luther, un petit siècle avant. Luther, à partir d'un travail linguistique remarquable sur tous les dialectes germaniques, fusionne quelque chose, et sa traduction de la Bible... En France, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça, d'une part, parce qu'on est, comme le rappelait Marc Sevin, en culture catholique, et qu'on impose, après le Concile de Trente, véritablement le rapport au texte latin, à la Vulgate. Et d'autre part aussi, parce qu'on oublie souvent de le dire, la France est, dès François Ier, un pays extrêmement centralisé, jusque dans sa politique linguistique. Et ce sont les grands grammairiens laïcs qui ont créé le français moderne, et on n'est pas passé par le creuset religieux. Mais parallèlement, effectivement, des poètes comme Marot et d'autres... du Bellay, Ronsard, se sont intéressés à la traduction biblique, et en tout cas à l'écho biblique dans leur propre écriture. Donc il y a une tradition de ça. Au XVIIe siècle, il y a la Bible de Sacy, Port-Royal, catholique, donc, qui crée une traduction qui est une traduction extrêmement littéraire. C'est la traduction à la fois de Pascal et de Racine, si on veut. Ensuite, les choses sont un peu plus compliquées. Et au XXe siècle, je crois qu'il y a, on en a parlé tout à l'heure, c'est Paul Claudel qui vraiment lance la réflexion sur cette question de la traduction de la Bible en français. Il s'en prend de façon très violente et véhémente à toutes les traductions en français qui existent à l'époque, dans les années 30, notamment celle du pauvre abbé Crampon, qui est une excellente traduction, mais là, le pauvre, il s'en est pris une volée de bois vert. Lui-même s'engage dans un travail assez fou d'écriture, de réécriture, de traductologie un peu... biblique, hein, avec bon. Et ensuite, on a un autre grand poète au début des années 50, c'est Jean Grosjean. Jean Grosjean qui, lui, a intégré une équipe de traduction. Il participe à la traduction publiée par la Pléiade. Lui-même fait un travail personnel de poète sur la traduction biblique. Et l'autre poète contemporain, c'est Henri Méchonic, effectivement, qui s'est attaqué à ce travail-là sur les textes de la Bible hébraïque. Mais voilà, il n'y avait jamais eu de travail beaucoup plus systématique. Voilà, il y a toujours eu cette réflexion de Bible et littérature dans notre culture. C'est même quelque chose de fondateur, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fondateur dans notre culture européenne et linguistique.
Oui, Olivier Cadio, avant cette émission, vous disiez qu'au fond, entrer dans cette histoire-là de la traduction, c'était pas, par exemple, traduire les psaumes, c'était pas entrer dans l'éternité, c'était au contraire se rendre compte que faire une traduction, c'est vieillir très vite.
Oui, une bonne traduction devrait avoir une durée de vie limitée, idéalement.
Ouais.
Si dans 20 ans, des gens disent, mais qu'est-ce que c'est que... 25 ans, on va. On dise, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce serait réussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire avec émerveillement, je ne sais pas, les traductions de Marot ou celle de Claudel. Mais justement, une traduction réussie peut aussi donner un état de la littérature du moment. C'est aussi un envers qu'on peut le lire. C'est-à-dire que ça peut être aussi un bon baromètre de l'écriture d'aujourd'hui. C'est vrai que cette Bible, si on l'ouvre, elle peut donner un bon échantillon, non pas de l'écriture aujourd'hui, mais de l'aboutissement des méthodes, du destin de certains écrivains, du destin d'écriture, voilà, donc c'est aussi un baromètre à l'envers.
Ouais, donc pour vous, ça veut rien dire, modernisation du texte biblique.
Surtout pas modernisation, voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un malentendu. Alors d'abord, il y a un premier malentendu, c'est le rôle dans... Les gens ne comprennent pas en général, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là, les écrivains? En général, un écrivain, c'est quelqu'un qui vient surécrire quelque chose. C'est quelqu'un qui va écrire en plus, par rapport à quelque chose qui serait en moins, ou quelque chose qui serait, disons, neutre, qui serait l'exégèse, qui serait la comme s'il y avait une sorte de traduction zéro, impeccable, et puis que l'écrivain viendrait là...
Un niveau zéro,
et puis qui serait la vérité, comme ça, et puis l'écrivain viendrait lui en rajouter, viendrait faire une glose, d'ailleurs, ça c'est... Ce que d'ailleurs Claudel a fait, pour des raisons différentes, pour le coup de mystique, La traduction des psaumes par Lelin n'est pas une traduction, c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est une dérive, c'est une méditation accompagnée, qui est d'ailleurs une très très vieille tradition autour des textes religieux.
Donc pour vous, c'était une façon d'injecter des choses, des techniques, des savoir-faire dans un texte qui ne vous appartenait pas ?
Non, ça ce serait non, parce que ça aurait été un coup de force. Ça, ça aurait été un bras de fer d'écrivain à Bible, ce qui n'était pas du tout mon projet. La question, c'était, pour conclure sur ça, c'était non pas de surécrire, de rajouter une couche à moi, ma voix à moi, mon style, quoi. Mais c'était au contraire de mettre, de sous-écrire. C'est-à-dire, je pense que seulement un écrivain a le privilège de ne pas écrire, de ne pas surécrire. C'est vrai que quand j'ai lu, quand je me suis intéressé tout au début, d'abord, je me sentais illégitime au départ pour faire cette traduction. Ce projet me paraissait énorme pour moi, qui suis pas en plus traducteur, mais enfin, au départ. Et c'est vrai que j'ai regardé les autres traductions autour. Et ce qui m'a frappé, c'est plutôt qu'il y en avait...
Vous avez lu, par exemple, les traductions des psaumes pour voir ce que ça donnait.
J'ai tout regardé, sans cesse, en plus, parce que ça me passionnait. Quoi. Et je me suis rendu compte, au fond, qu'il y avait des choses magnifiques. Je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus aléatoires que je ne pensais.
Quand on voit la distance entre
ça,
chaque
passionné.
Version, par
ça
exemple.
Ça m'a passionné de voir qu'avec un mot à mot très très sérieux, on parlera tout à l'heure, j'ai envie de parler du mot à mot, de Marc Sevin. Mais je me suis rendu compte qu'au fond, les choses étaient assez aléatoires, et surtout, les choses étaient surécrites. Et je comprends très bien qu'un exégète, par exemple, qui passe 30 ans à travailler sur un texte, ait envie d'utiliser la langue la plus haute et la plus noble, surtout s'il est croyant, pour faire monter, pour faire décoller quelque chose.
Donc vous pensez
qu'en
général,
un écrivain peut simplement faire descendre. Ça veut dire qu'on peut...
Dégonfler ?
Oui, va dégonfler, non, parce que ce serait déjà... Le mot à mot que me donnait Marc Sevin était tellement beau, c'est-à-dire ce qu'il me livrait comme matériau était tellement émerveillant. Pas tout, hein, parce que les psaumes, c'est une suite d'horreurs et de combats. Et puis il y a des moments, des choses qui venaient du mot à mot lui-même, et mon travail consistait à, comme un archéologue, plutôt à épousseter le sable autour et à pouvoir garder des choses, et à les rendre lisibles et actives. Pas seulement lisibles, mais puissantes, enfin... Alors évidemment avec des techniques poétiques qui viennent de moi, qui viennent d'autres, enfin qui viennent de l'histoire de la poésie. Alors après il y a une deuxième chose, c'est que quand je lisais ce mot à mot, curieusement, je retrouvais par un hasard étrange des choses qui pouvaient ressembler à des embryons de poésie contemporaine qui peuvent venir du tombeau d'Anatole de Mallarmé par exemple. Tout d'un coup j'y retrouve des choses qui n'ont absolument rien à voir historiquement. Bon. Tout ça pour dire que Quand les gens sont un petit peu choqués par cette différence entre cette Bible et les anciennes, c'est qu'ils sont habitués, au fond, à un état de la langue française qui est tout très, très court dans l'histoire, qui est, au fond, la poésie du 19e siècle, passée dans les années 50, la langue scolaire du 19e siècle. Et c'est vrai que, quand il y a marqué « noir » en hébreu, on traduit par « ténèbres », par exemple. Alors, par exemple, ça, « ténèbres », c'est daté. Et le français a un problème, à la différence de la King James dont on parlait. La différence de l'anglais, qui reste une traduction, je trouve, très lisible aujourd'hui, parce que l'anglais est plus sec. I am in the dark. Je suis dans le noir. Tandis qu'en français, les traductions ont une durée de vie plus limitée, sont plus datables. Voilà. Tout simplement, pour conclure, le rôle de l'écrivain, là, c'était plus de descendre l'opération, d'être calme et de pouvoir affronter le mot à mot dans une certaine franchise.
Donc c'était une sorte de division du travail, quoi, du côté de l'exégèse d'être au sommet de la scientificité des connaissances, etc., et du côté des écrivains, du côté de ceux qui utilisent qui sont au plus contemporain, quoi, pour dire les choses très très bêtement.
Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure en citant Jacques Roubaud, c'est que en même temps. Normalement, quand tout se passait bien, au bout de, bon, on va dire, 5-6 mois de travail commun, les choses étaient... C'était vraiment quelque chose de... Il y avait une réciprocité dans le travail, d'abord, parce que je pense que peu à peu, l'exégète entrait dans le fonctionnement, un peu dans la réactivité de l'écrivain, et l'écrivain commençait, un peu plus laborieusement souvent, à comprendre par exemple, la plupart des écrivains qui ont traduit sur des textes hébraïques ont été passionnés par l'hébreu. Bon, apprendre le caractère très parataxique de l'hébreu, assez loin de toutes les langues romanes, etc., de voir un système temporel très inédit en hébreu, ça a passionné les écrivains, ou même le système de narration en hébreu, qui est un système assez particulier. La plupart des écrivains ont été passionnés quand les experts leur ont raconté ça, vraiment, de façon précise, et en ont d'ailleurs tiré quelque chose dans l'écriture de la traduction. Effectivement.
C'est vrai qu'il y avait une espèce d'évolution, enfin, dans le travail. Au début, l'exégète était un peu impressionné par les ceux qui font le par les écrivains. Et je pense que et réciproquement. Mm-hmm. Et au début, il y a peut-être un petit flottement. Et c'est au fur et à mesure que nous avons travaillé que et même à la fin, on a vraiment resserré les boulons à plein. Hein. Mm-hmm. Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que...
Les boulons de la Bible.
C'est très curieux, c'est qu'à la fin, effectivement, il y avait de temps en temps, il y a aussi l'exégète qui a aidé l'écrivain.
Bien sûr.
Dans son propre travail et réciproquement, c'était assez curieux.
Pourquoi ça m'a aidé par exemple, le mot à mot, parce qu'il faut partir de ça. Le mot à mot de Marc Sevin, par exemple, puisque nous avons fait les psaumes ensemble, c'est pas un mot à mot, c'est pas un mot à mot sec avec une espèce de qui serait déjà une pré-traduction que j'aurais donc, comme je disais tout à l'heure, à enjoliver ou à mettre en français ou à rendre beau ou à rendre poétique. C'était un champ de travail, c'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas de caméra dans les radios, mais...
C'est dommage, mais...
On pourrait peut-être le faire maintenant avec un système de... mais ce qui était merveilleux, c'est qu'il me donnait, par exemple, le mot à mot, enfin, qui lui paraissait le plus simple, avec non seulement un appareil critique, technique, théologique derrière, mais il me donnait...
Il donnait des explications,
bien sûr,
en plus.
Mais en plus de ça, dans le mot à mot lui-même, il m'ouvrait, il me dépliait chacun des mots, chacun des concepts importants de l'hébreu, les grandes notions qui sont d'ailleurs expliquées dans le glossaire qui est à la fin de cette Bible. Il me donner tout un champ de lexical qui me permettait, moi, de trouver, de slalomer, de chercher dans un premier temps, dans les premières années, parce que ça a quand même duré 6 ans, de chercher ma langue, enfin, de chercher ma lisibilité, parce que ce que je cherchais là-dedans, c'était la pédagogie.
Parce que
la poésie, c'est pédagogique.
Ah bon ?
Au sens de merveilleux pédagogique, c'est comme un cantique, une leçon de chant.
D'accord.
Je cherchais quelque chose de chantable, d'audible et de simple, et non pas d'obscur. Partant d'une chose assez obscure, j'essayais non pas de l'éclaircir, c'est-à-dire le simplifier, mais j'essayais de le déplier et de le rendre lisible et acceptable. Et simplement, si je n'avais pas eu un mot à mot ouvert, je n'aurais pas pu me déplacer à l'intérieur de ça et trouver le fil d'une lecture.
Est-ce que vous pourriez donner, par exemple, ça, une idée du mot à mot vous avez apporté quoi?
Je ne sais pas, j'ai des mots, oui, au hasard, mais je ne sais pas. Par exemple, le mot à mot du je ne sais pas, j'ai le 78... Le mot à mot, par exemple, c'est « écoute donc, tendre l'oreille vers », par parenthèse, « tendre l'oreille vers ». Donc, il m'indique que « écoute », c'est pas simplement « écouter », c'est vraiment qu'il y a une oreille dedans, en hébreu, qu'il faut. « Mon peuple, ma loi », donc bien sûr Torah, « tendez », et là, par parenthèse, il y a marqué « étendre, allonger, pencher, incliner mm-hmm. ». Alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est qu'on...
Donc, chaque mot est
ouvert, ouais. Comme si, au fond, j'avais un dictionnaire de synonymes du mot. Donc, il m'ouvre chaque mot comme une boîte. Alors ça a été formidable au début, mais alors à la fin, il a fallu, comme le dit Marc Sevin, resserrer les boulons, puisqu'on ne pouvait pas se permettre de choisir 50 acceptions pour un mot, ce qui aurait été une mauvaise traduction. Mais en revanche, on s'est permis pour certains des mots, et on s'en est justifié dans les notes, pour des énormes notions comme kevod en hébreu, qui veut dire ce qu'on appelle gloire, de traduire quelquefois par importance, quand on sent que le mot veut dire pesanteur, poids par exemple, ou éclat, ou victoire, quand on est dans un contexte militaire. C'est-à-dire qu'on a aussi un peu ouvert, enfin en limitant, sinon ça aurait été trop facile. Mais
oui, parce que déjà dans l'hébreu, il y a ce mot est là, la kavod, ça veut dire d'abord le poids.
Voilà,
parce que ce qu'on sent du poids de Dieu, quand on parle de la gloire de Dieu.
Donc et le mot gloire ne veut plus rien dire. Alors ce qui d'ailleurs a été très très passionnant dans notre affaire, c'est que si on enlève les mots qui ont perdu à force, le mot péché, le mot gloire, enfin des mots qui sont remplis comme des tellement qui débordent, qui sont devenus des stéréotypes, enfin qui sont vides. Si on les enlève et qu'on les remplace par un mot plus précis, si on enlève le mot péché qu'on met manquement, comme dit un philosophe, si on enlève le mot péché, alors est-ce qu'il reste du péché, quoi ? Il n'y a plus de péché. Donc simplement, on est obligé à ce moment-là de rééquilibrer le poème et de remettre de l'importance ailleurs. Sinon, on banalise.
Je fais juste une parenthèse pour demander s'il y avait des accords collectifs sur ces mots-là, par exemple. Est-ce que le mot de péché disparaît généralement dans le volume ou bien non ?
On s'est entendu sur des noms de Dieu.
Non, vas-y.
Non, vas-y. Non, parce que c'est vrai qu'on a essayé au contraire de garder l'autonomie des livres.
Dans certains... Oui, c'est une vraie question, la question de l'homogénéité. D'abord, c'est un acte de traduction sur la Bible qui est important, puisque toute traduction dans l'histoire de la traduction biblique a été homogénéisante. La nôtre est en quelque sorte la première à résister à cette lourde homogénéisation biblique sur un texte, sur une série de textes qui en gros s'étale sur plus de 1000 ans, dans des langues, on l'a dit tout à l'heure, différentes, avec des états même linguistiques de ces langues différents. Donc on a décidé effectivement d'ouvrir la diversité, la polyphonie biblique, de ne pas homogénéiser. Donc du coup, c'est ce qu'explique Olivier, on s'est retrouvé devant le mur un peu de la mémoire biblique traditionnelle. grosse mémoire linguistique qui traverse toute la culture. Donc c'est même au-delà des textes bibliques. Effectivement, péché, gloire, grâce, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc on a décidé deux choses.
C'est Lucifer.
Lucifer, oui, Lucifer, Satan, l'adversaire. Bon. Donc on a décidé de faire travailler cette mémoire biblique. C'est-à-dire, d'une part, non pas de l'effacer, comme parfois on l'a dit, on trouve le mot péché, on trouve le mot résurrection, bon. Mais de faire travailler ces mots, justement, c'est, selon le travail que vient d'expliquer Olivier, en les dépliant à travers une sorte de petite, je sais pas, de petite éco-sémantique. Alors, et là, à partir de là, alors on a laissé les gens assez libres, effectivement, là-dessus. Chaque binôme, d'abord parce que il y avait un grand souci de créativité, d'inventivité. Et après, on a quand même travaillé pour essayer de limiter, c'est ce qu'expliquait Olivier aussi, l'expansion. On pouvait pas, je sais, par exemple, un exemple un peu drôle, c'est pour Torah. Torah peut signifier étymologiquement, effectivement, signifier la direction que l'on montre du doigt. Donc, un écrivain, je crois que c'est Pierre Alféri, a dit, on va traduire par cap. Voilà, bon, alors, là, par exemple, on lui a dit, bon, voilà, c'est, donc on a quand même, on a gardé Torah. Non, on peut faire enseignement, direction, on a
fait expliqué
direction. Direction, ouais. Donc, on a travaillé là-dessus, on a fait circuler la mémoire et on l'a ouverte, on l'a dépliée. Et donc, du coup, effectivement, on a une traduction un peu scandaleuse en ce sens qu'elle ne répond pas aux critères d'homogénéisation de la Bible dans notre culture.
Mais chaque écrivain avait un libre arbitre.
Parce que d'abord, chaque écrivain avait un libre arbitre. Ensuite, chaque exégète avait aussi un libre arbitre. Oui. Il y a des exégètes, par exemple, qui ne voulaient pas. Le libre arbitre est aussi bon pour les exégètes.
Mais c'est vrai que l'exégète avait toujours le dernier mot.
Quand même. Oui.
Non, mais il fallait donc rééquilibrer. C'est vrai que si on enlève le mot péché, ce que je voulais dire tout à l'heure, à ce moment-là, il faut refaire une dramaturgie. Il faut remettre du poids à l'endroit où il n'y en avait pas. Et donc, moi, ma question pour les psaumes, ça a été de si je déséquilibrais, il fallait que je rééquilibre pour ne pas banaliser l'objet, moderniser au sens où vous le posiez tout à l'heure la question. Il ne s'agit pas de rendre ce texte lisse, moderne, fade, et au goût du jour, et compréhensible et accessible. Il fallait recréer de la force à un autre endroit. Donc ça, c'était très intéressant. Il fallait recréer des mots forts, inédits.
En laissant le caractère énigmatique, par
exemple. Énigmatique, il fallait le recréer ailleurs. Sinon, l'opération est perdue, puisque les psaumes, ce sont des constructions très très complexes, faites sur des systèmes d'échange de force, entre le sujet et et l'autre sujet en haut.
Mais encore une question d'ordre général. Est-ce que vous leur disiez à ces écrivains, vous leur donniez une direction générale au fond? Par exemple, vous insistez sur le caractère, je sais pas, c'est oral de cette chose. En tout cas, vous dites, c'était fait pour être lu, pour être entendu. Je sais pas. Est-ce que, par exemple, hier, en entendant François Bon et les dialogues de Moïse et de Dieu, on se disait ça, qu'il avait voulu restituer comme ça une oralité de très étonnante de cette langue dans ce contexte.
Oui, tout à fait. Mais là, je crois que, enfin, on n'a pas décidé qu'on allait faire une Bible orale. Je crois que c'est dans le choix des écrivains, dans le rapport aujourd'hui, notamment de certains auteurs contemporains, justement, à l'oralité, dans la langue, etc. Donc, ces gens-là ont travaillé comme ça aussi, la traduction biblique. Et bien sûr que la Bible appelle ça aussi beaucoup, quand même. C'est à l'origine des textes qui sont là pour être dits, justement, pour être à haute voix ou en murmure. Le travail d'Olivier sur les psaumes, qui est parfois la limite, effectivement, quand on peut le lire comme ça, d'un murmure, c'est magnifique. Donc c'est des François sur, effectivement, une sorte de dialogue incessant, comme ça, dans la narration même. Bon, c'était un travail. Mais là, c'est le travail vraiment littéraire fort, enfin, de...
Si on en vient précisément donc au psaume, est-ce que vous pourriez rappeler, Marc Sevin, ce que sont les psaumes, au fond, une introduction aux psaumes?
Cole.
Moi, je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Non. Ce que j'ai découvert avec ce travail, c'est que tout ce que j'avais appris était sûrement juste. Mais moi, ce que j'ai découvert surtout, c'est que les psaumes ne se ressemblent pas. Alors qu'avant,
les uns les autres, vous voulez dire?
Oui, non, chacun a un peu sa spécificité, chacun... C'est un petit peu... Pour moi, les psaumes font naître des mots. C'est les mots de la Bible, des expressions, même des expériences. Les psaumes, pour moi, c'est ça. Bon, c'est des prières, c'est des cantiques, c'est des réflexions, c'est des poèmes, c'est tout ce qu'on veut. Mais plus fondamentalement, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est que ces mots sont la matrice de tous les mots de la Bible. Bon, ça, c'est ma petite découverte...
C'est une fabrique de Alléluia, en tout cas.
Voilà.
C'est quand même 7500 vers pour arriver à Alléluia. C'est pas rien, comme construction.
C'est pas mal, quand même.
Parce qu'il y a Yah qui arrive au centre.
Voilà.
Il y a loué, qui arrive à peu près aux deux tiers, puis à la fin, il y a Alléluia. Quel travail.
Chaque écrivain a donné un titre à sa traduction, ou un sous-titre, je ne sais pas bien, vous avez dit très « Au bonheur ».
Ah non, non, c'est ce qui a marqué au début de chacun des livres, c'est le début.
Ah bon, d'accord, les premiers mots.
Là, je n'ai pas changé le titre.
D'accord, c'est les psaumes.
Parce que j'aurais voulu appeler ça psalmodie, mais ça aurait été un petit peu, je ne sais pas, précieux.
Voilà. Alors, je me disais que, par exemple, j'aurais pu lire le psaume 1 dans la traduction de la Tob, et puis qu'ensuite, vous auriez pu donner votre version pour qu'on voit un peu ce que vous avez fait. Donc, j'ai une photocopie assez mauvaise, je ne suis pas sûre de bien lire. Hein. Donc, le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des impies, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas, il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se révéleront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd.
Au bonheur, non, il n'ira pas. Ce rassemblement est criminel. Il ne marche pas sur la trace de ceux qui se perdent. Il n'habite pas là où habite la dérision. Ma joie, je la trouve seulement dans la Torah de Yahvé. Sa Torah, je la murmure jour et nuit. Je suis l'arbre transplanté dans les jardins d'eau. À chaque saison, voici mes fruits. Mon feuillage est vivant, tout ce que je donne est bon. Malheur, aux criminels, ils seront dispersés. Paille inutile dans le vent. Le jour de la décision, les criminels ne se lèveront pas. Ni les perdus au rassemblement des justes. Où va le juste? Yahvé le sait. La trace des criminels, sans issue.
Quand on compare les deux, même typographiquement, on voit que vous avez, même typographiquement, vous avez fait des choix. Par exemple, là, dans la Tob, donc dans la traduction œcuménique, ce sont des sortes de strophes de six vers. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des vers, d'ailleurs.
Ce qui correspond à un seul vers. Oui.
Ce qui n'est pas du tout le cas chez vous. Vous avez privilégié les distiques. Il y a beaucoup.
C'est-à-dire que j'ai étendu le verset hébraïque qui est très très long. On aurait pu, la première option que j'avais prise au tout départ, c'était de faire un seul verset. Ce qui, au fond, la proposition un peu d'Henri Michonnik, au fond, qui est une chose qui peut tout à fait se défendre, qui est de prendre un grand verset, de l'allonger, mais de lui garder son autonomie en le blanchissant, en faisant des coupes, qui pour lui correspondent à des souffles. C'est une méthode qui se défend. Moi, j'ai étiré verticalement, et j'ai essayé, si vous voulez, d'alterner des distiques qui font avancer le récit, qui font des vers très courts, pour essayer d'obtenir des moments de vers très longs qui correspondent pour moi, qui s'approchent un peu du verset hébraïque. Vous voyez, par exemple, il n'habite pas là où habite la dérision, et puis après on a tout seul, ma joie je la trouve seulement dans la Torah d'Yahvé. Donc j'alterne des moments brefs et des moments longs pour produire une espèce de rythmique comme ça. Parce que ma question là-dedans, c'était de faire sentir la différence entre le parler et le chanter. Parce qu'au fond, on ne sait pas ce que c'est la question que vous posiez tout à l'heure. On sait que ce sont des chants, mais
moi, ce qui vous intéressait, je suppose, c'est que ça se rythme, parce que...
Moi, j'ai un peu imaginé, ça n'a rien à voir, j'ai pensé un peu au raga indien. C'est-à-dire, je me suis dit que chaque psaume, parce que c'est 150 psaumes, c'est 150 fois une mécanique très complexe. À chaque fois, on expose au début les instruments, les tessitures, les possibilités, la dramaturgie aussi.
À chaque psaume?
Chaque psaume, plus ou moins. Il y a une, comme dans une partie d'échecs, il y a une ouverture à la française, quoi. Puis après, il y a un milieu de partie très compliqué, puis à un moment, ça chante. Mais ça chante très peu. Toute la question pour moi, c'était de savoir comment on pouvait, dans un poème, faire sentir la différence entre le parler du poème et le chanter. Alors, ça c'est... Alors, je ne sais pas si les gens vont le voir comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'a dirigé, moi. Il y a de l'extase, mais très courte, dans chacun des psaumes. Une extase construite, produite par un récit. Par un mini-récit, qui est toujours un récit d'abandon, puisque notre héros, puisqu'il y a un héros, qui se déplace là-dedans, ce petit héros-là est abandonné en permanence. Et à chaque fois retrouve, et à chaque fois remercie, et puis ça recommence le lendemain.
En même temps, ce que je trouvais...
c'est épouvantable, cette histoire.
Ce que je trouvais de proche de préoccupation de la poésie, c'est par exemple comment dire ça, l'introduction de la réflexivité, par exemple. Ce qu'on voit dans la Tob, c'est que on dit du chef de chœur avec instrument à cordes, psaume de David, ça c'est en italique, et puis le psaume commence. Vous avez intégré
ça, c'est
typographiquement...
Parce que c'est dans l'hébreu. Ça, c'est la Tob.
Et vous avez intégré les pauses aussi, ce qui est très beau, parce que ça rythme. Mmh. Alors que les pauses dans la Tob sont en italique. Sur le côté sur en le côté. Italique et n'appartiennent
absolument.
Pas au
texte. Alors ça, c'est dans le texte hébreu. C'est dans le texte hébreu. Donc on a pris l'original. Puisqu'on ne sait pas à quoi correspondent ces indications. On ne sait pas si c'est une dédicace ou une indication technique musicale.
La pause, par exemple.
Non, oui, la pause, on comprend que c'est une indication musicale, oui. Mais le début, l'exergue, on ne sait pas ce que c'est exactement.
Chant de David.
Si, c'est un chant de David, mais avant pour instrument au chef de chant. On n'a jamais, personne ne peut dire encore aujourd'hui, encore, j'aime bien cet encore, personne ne peut dire, en tout cas, si c'est la partie du chef de chant, comme on dit la partie du chef de chœur dans un orchestre, ou si c'est simplement une dédicace. Mais en tout cas, dans l'hébreu, ça fait partie du texte, ça fait partie du verset 1.
Oui, mais en même temps,
Marc Sevin.
Les deux choses sont possibles. Hein. On peut aussi retirer...
si on veut, mais c'est
si
pas...
on veut.
Mais c'est pas...
Parce qu'en hébreu, effectivement, on va pas... Si on veut mettre un titre, on va pas le...
Oui, mais dans l'hébreu original, c'est pas ça.
Oui, mais...
On l'a respecté.
D'accord, on l'a respecté.
C'est bien. Je trouve que c'est... On est des gens respectueux d'original.
Mais vous Marc Sevin, est-ce que vous supportiez cette sorte... Ouais, je dirais, c'est pas de la désinvolture. Quelquefois, ça ressemble à de l'ironie. Par exemple, Cadio peut traduire... quelque chose sur l'air de...
Ah ça, non, c'est, ça. Non, c'est le texte.
Ouais.
C'est le texte.
Oui, mais voilà, ça sonne d'une certaine façon en français, sur l'air de...
Eh oui, mais
ça
même,
sonne ironiquement,
mais...
ça sonne...
Ah, ironiquement, vous trouvez sur l'air d'Hélice et tout ça
oui.
Moi, je trouve pas du
ah
tout.
Oui.
Alors.
Ah bon.
En tout cas,
c'est... Pas, alors, si je l'ai fait ironiquement, je regrette, parce que c'est pas du tout ça.
Ah bon.
Eh ben, à ce moment-là, en hébreu aussi, c'est ironique.
Parce que sur
parce
l'air...
Que c'est...
Oui, sur la rengaine, vous avez l'impression d'entendre ça un peu.
Oui, voilà. Ouais, voilà.
C'est un peu ça.
Hein. Une chanson célèbre.
C'est ça, le sens.
D'accord.
C'est sur, voilà, appuyons-nous sur cette musique. Mais c'est pour ça que on sent très bien que c'est aussi des dérives, c'est aussi des moyens mnémotechniques, les psaumes, pour travailler à partir de formes fixes, certainement musicales. L'air d'Hélice, l'air de ça, qui devait être des airs connus sur lesquels on retravaillait. Exactement.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça.
Ne nous abandonne pas.
Ou peut-être que c'est encore autre chose, une autre indication, on ne sait pas.
Et puis d'une façon générale, ce qu'on voit, c'est que dans la taube, on restitue une phrase avec un verbe, tandis que vous n'hésitez pas, vous parliez tout à l'heure de parataxe.
Oui,
c'est ça. Vous faites des phrases sans verbe.
Quand il n'y en a pas.
Et donc c'est beaucoup plus court, toujours. Et ça, c'est peut-être d'une façon générale dans le volume. Oui, c'est raccourci, on a
le présent aussi, par exemple.
Voilà, je voulais parler du présent.
Parce qu'il n'y a que des, comment on dit, des modes, enfin, je sais pas, en hébreu, il n'y a pas de futur absolu ou de passé absolu. On peut travailler tout au présent, si on le décide.
C'est ce que vous avez fait ?
Pas toujours, mais le plus possible. Ou plutôt, j'ai justement joué sur le passé et le présent pour créer le présent du chant. Pour que le passé soit quelquefois l'action, et puis que tout d'un coup le présent fasse advenir quelque chose comme le pur présent de l'extase, entre guillemets.
Comment vous interveniez, vous, quand Olivier Cadio vous proposait une version ? Sur quoi portait votre intervention, Marc Sevin ?
Moi, j'essayais de voir si c'était fidèle au texte. Je reprenais mon texte hébreu, et je réfléchissais, et je regardais pour voir si... Bon, si c'était juste, hein, si... Alors bon, je faisais mes petites...
Des petites, ça a duré des milliers, il y a eu des milliards de corrections.
Des corrections.
C'est un travail, ça a été un travail de bénédictin. Ouais. J'ose à peine.
Alors là, je disais, à tel endroit, il faut absolument recommencer.
Bien sûr. Je ne comprenais pas, j'ai aussi des choses que je n'ai pas comprises.
Mais quoi, par exemple, qu'est-ce qui vous avait gêné ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous avait gêné ?
Oh, c'est souvent sur des détails. Je vois le psaume 15, j'ai une des versions intermédiaires du psaume 15, là. Quelqu'un marche sur. Bon, et en fait, c'est pas le verbe marcher, c'est être habité, être avec, être bon. Donc c'est pas tout à fait. C'est pour être final vraiment à la lettre du texte.
Parce qu'il y a eu un vrai travail il y a eu un vrai travail sur la fidélité au texte source,
à la lettre.
Au texte source et à la lettre, mais. Une fidélité on n'a jamais voulu faire du littéralisme, ni de la transparence, de l'adéquation langue à langue, qui est, à mon avis, une bêtise. Mais, c'est un travail. Donc l'exégète, il était au cœur de ce travail-là. Il était garant de ce rapport. Et souvent, Marc disait, pour les psaumes, je me rappelle, ça me faisait rire à la fin, il disait, oh là là, c'est pas ça du tout, mais il y a tout.
Non, mais c'est-à-dire que la question, c'est de ne pas surhébraïser, c'est-à-dire de ne pas faire un texte colonialiste...
Ou de l'ethnologie,
de mettre des faux palmiers à l'arrière.
Oui, c'est ça. Ouais.
De transformer le Cantique des Cantiques en un faux poème d'amour oriental avec des loukoums, etc., ce qui est toujours pénible. C'est-à-dire d'essayer de tirer. Alors, c'est là où c'est très compliqué. Parce que quelquefois, dans le mot à mot, l'hébreu lui-même, dans sa sécheresse ou dans son étrangeté pour nous, nous donne directement en français quelque chose d'extrêmement lisible et de limpide. Alors, quelquefois, on pouvait se permettre, non pas d'hébraïser.
Le mot à mot lui-même était déjà très beau, c'est ça?
Non seulement, oui, absolument, oui. Lumineux. Et que tout mon travail, c'était de rendre ce mot à mot, je le disais tout à l'heure, de l'isoler et de le rendre simple. C'est-à-dire, au fond, d'aider le mot à mot à être entendu. Ce qui n'a rien à voir avec littéraliser, qui est un autre travail. Qui est un travail baroque, qui est un travail maniériste. Qui est un travail qui consiste à en rajouter dans l'autre sens. Et c'est là où c'est très très intéressant. Moi, je suis resté à cette surface-là. Et pour réussir ce travail-là, il faut être deux. Parce qu'il faut être un lecteur et pas simplement un traducteur.
On n'a plus qu'une minute, et donc une minute trente, ce serait bien que vous en lisiez un. Celui que vous voulez. Alors, tranquillement, vous avez quand même un peu de temps, quoi. Enfin, une minute,
je tiens à dire que lire la Bible comme ça, pour le coup, c'est vrai que l'oral, c'est important, mais c'est très difficile de lire la Bible pour un écrivain, parce que c'est pas fait pour ça. Je
ah bon?
Pas tout à fait. Il ne faut pas la lire trop. Le 77, un bout?
Le 77, voilà, très bien.
Arrêtez-moi si c'est trop long. Parce
oui,
que
je vous arrêterai.
Ça dure 7500 vers.
D'accord.
Au chef de chant, psalmodie d'Azaph, pour Yedoutoun. Ma voix vers Dieu, ma voix crie. Oh, il m'écoute si bien. Angoisse, alors, je cherche Adonai. Nuit, main tendue sans faiblir, je ne veux pas de consolation. Je me souviens de Dieu, murmure et méditation, et je m'assombris, pause. Tu saisis les paupières de mes yeux, trouble et silence. Je pense aux jours d'avant, oh, les années d'avant. Je me souviens de ma musique la nuit. Je médite avec mon cœur et mon souffle cherche. Adonai va-t-il m'abandonner pour toujours? Terminé sa faveur? Disparu pour toujours son amour? Fini sa parole future? Dieu oublie-t-il de gracier? Aurait-il fermé son ventre de colère? La poigne des lionnes a changé. Je te dis que cela me blesse. Je me souviens de tes actes, Yah, je me souviens de tes merveilles d'avant. Je me répète tout ton travail, je médite tes exploits.
Voilà, on a parlé aujourd'hui de la nouvelle traduction de la Bible qui paraît aux éditions Bayard. Et je vais laisser Frédéric Boyer rappeler les coéditions, les auteurs, les collaborateurs, etc.
Bon, il y en a pour un moment. Non, cette Bible est éditée par Bayard en France et le coéditeur québécois est Mediapol.
Voilà, donc il y a une vingtaine de poètes.
Une vingtaine d'écrivains et 27 exégètes ont collaboré ensemble pendant 7 ans.
C'était Les Jeudis littéraires, la Bible nouvelle traduction par Pascal Casanova, réalisation Anne Franchini, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 2001.